sont cool, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 30 juin 2016. Bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien.
Oui, bonsoir Delphine, je vais parfaitement bien.
Alors ce soir nous allons parler de tout plein de choses et pas forcément dans un ordre traditionnel puisque nous parlerons des sanctions enfin de Monsieur Barbarin. Nous parlons avec Laurent d'une nouvelle conspi, je l'avais vu moi-même, c'est intéressant. Et puis nous parlerons du groupe Bolloré ce soir, nous parlerons de Vivendi et de la passion des jeux vidéo, oui oui oui. Et puis nous parlerons du groupe Bolloré avec les grèves dans les médias, en particulier donc avec celle d'iTélé, mais nous parlons aussi celle de Radio France. Nous ferons un petit tour du côté du nucléaire, hein, et puis par exemple de Monsieur Macron, parce qu'il paraît qu'il l'aime. Tout ça.
Exactement. Plus c'est radioactif, plus il est heureux.
Et puis nous ferons un double sujet, on va dire, puisque tout est lié. Nous parlons sec plastique, Madame Royal, Leclerc, pesticides, Greenpeace et explosion. Nous aurons d'autres infos environnementales et puis nous terminerons, nous l'espérons, par une petite invitation à voir une expo photo à la bibliothèque du 1er de Lyon, l'expo de Pierre Suchet.
Mais nous allons ouvrir avec LuxLeaks.
Oui, on avait quand même envie de revenir par un petit mot de solidarité et puis d'énervement, effectivement, sur ce qui s'est passé sur l'affaire LuxLeaks, c'est-à-dire sur les affaires judiciaires.
Oui, alors on vous rappelle ce que c'est que cette affaire. C'est une affaire qui a été révélée en 2014 sur les accords passés entre le Luxembourg et des multinationales pour attirer sur le sol luxembourgeois ces multinationales et échapper donc de manière légale, mais pas tant que ça, à leur droit de payer des impôts et donc par là même d'attaquer, de voler finalement quelque part les impôts des différents pays concernés. Donc l'affaire concernait Pricewaterhouse, une entreprise chargée comme ça de permettre à des multinationales de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale et ce que nous appellerons nous du vol social. Donc la justice luxembourgeoise était saisie par l'employeur de ces deux Français, hein, c'est Antoine Deltour et Raphaël Allais, qui avaient balancé aux médias d'abord et puis donc après à la justice tout ce qu'ils avaient pu voir chez PricewaterhouseCoopers, j'avais oublié le Coopers d'ailleurs, qui les avait énervés. Donc ils ont été, c'est passé en justice et ils ont été condamnés. Alors, bizarrement, la justice a reconnu leur qualité de lanceur d'alerte. Je vais citer ce que dit le président du tribunal, donc le juge. Il est incontestable que les divulgations d'Antoine Deltour et de Raphaël Halley relèvent aujourd'hui de l'intérêt général, ayant eu comme conséquence une plus grande transparence et équité fiscale. Donc, il se dit bien, ils reconnaissent leur rôle de lanceur d'alerte, ils travaillent pour l'intérêt général. Ce qui est l'idéal le plus absolu, l'intérêt général. Mais le juge a aussi constaté, soi-disant, qu'il n'existait aucune protection en droit luxembourgeois, ni au niveau européen, pour les lanceurs d'alerte. Hein, il y a une proposition de directive, mais qui n'est pas encore votée. Donc, ils les ont condamnés quand même. Donc, 12 mois de prison avec 12 mois de prison et 1500 euros d'amende pour Antoine Deltour. Raphaël Halley a lui eu 9 mois de prison et 1000 euros. Tout ça, bien évidemment, avec sursis. Mais c'est quand même une condamnation. Et le pire du pire, jusqu'où sont allés ces juges, tout en reconnaissant l'intérêt général défendu par ces deux lanceurs d'alerte, ils donnent un dédommagement au cabinet d'audit, donc PricewaterhouseCoopers, qui a permis ces évasions fiscales, donc ces vols de l'argent qui va servir aux sécurités sociales, toutes ces choses-là. Et ils leur donnent donc des dommages et intérêts. Alors certes, ces dommages et intérêts sont de l'ordre de 1 euro symbolique. Mais c'est pas la valeur qui compte, c'est le symbole. Donc la justice a reconnu que c'était des méchants, des criminels. Hein. Enfin, alors c'est pas des criminels, mais qu'ils avaient fait une faute et qu'ils ont été condamnés pour cette faute. Ce qui est honteux. Alors ça fait réagir pas mal de gens, notamment la Fédération internationale des journalistes, qui a dit que c'était un mauvais signal pour les futurs lanceurs d'alerte. À savoir quand même que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un journaliste qui a révélé tout ça, qui lui n'a pas été condamné dans l'affaire, a été acquitté. Ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est plus dur de toucher les journalistes. Par contre, de toucher les citoyens, c'était plus facile pour la justice luxembourgeoise. Donc c'est quand même quelque chose qui est mauvais signe. Alors c'est condamné par pas mal de gens, hein, tous ceux qui luttent contre l'évasion fiscale, notamment pour l'égalité fiscale aussi. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors, on sait que il y en a un des deux, je crois que c'est Antoine Deltour, qui a dit qu'il allait faire appel. Hein, et il a raison, parce que ce verdict va freiner tous les autres lanceurs d'alerte. Hein, alors, on sait qu'il y a la loi Sapin 2 qui est en cours de discussion en France. Michel Sapin avait soutenu officiellement les deux travailleurs. Mais bon, c'est plutôt inquiétant. Et finalement, moi, je me suis dit, tiens, tous ces médias, hein, qui avait condamné les méchants casseurs qui étaient allés emmerder notamment la Société Générale en France. Vous savez, dans les manifs, hein, il y a eu quand même pas mal d'actions. On a vu à Lyon, même à l'avant-dernière manif, celle du jeudi, il y a une semaine, très exactement, on a vu la Société Générale protégée par une ribambelle de CRS.
Un bataillon de CRS
pour protéger cette banque. Et les journaux, enfin les médias ont toujours condamné, c'est dégueulasse de s'attaquer aux banques, tout ça. Faut quand même rappeler, et du coup on va se mettre du côté des casseurs, que finalement la justice, elle a montré une chose, c'est quand on s'attaque au système bancaire, quand le système bancaire triche, on est condamné. Et c'est ce qui s'est passé au Luxembourg. Que reste-t-il aux citoyens pour lutter contre les banques? Alors moi je dis, il reste les casseurs. Alors il reste soi-disant ceux portés par les pseudo-démocrates, tous ceux qui se disent l'action citoyenne, le consommateur a du pouvoir, c'est de partir de ces banques qui trichent. Or ça ne marche pas, puisqu'aujourd'hui même des militants, encore militants, sont encore clients de ces banques pourries, Crédit Agricole, Société Générale, tous ceux qui ont participé à la crise financière de 2008, etc. Donc finalement, les casseurs avaient peut-être raison, puisque c'est peut-être le seul moyen qu'on a aujourd'hui contre le système bancaire, contre ces tricheurs, contre ces voleurs. C'est peut-être l'action physique. Et je rappelle que c'était juste symbolique contre des biens possédés par les banques. Et c'est la question que je pose. Hein. Est-ce que vous avez un autre moyen d'action? La justice condamne ceux qui attaquent les banques, hein, qui sont pourtant dans leurs droits. Que reste-t-il? Moi, je n'ai pas trouvé de réponse à part aller emmerder physiquement. Ce que le font les casseurs. Voilà, vous pouvez chercher si vous avez des solutions pour attaquer les banques quand elles trichent. On rappelle quand même, juste pour info, on a donné l'info il y a quelques semaines, 500 000 morts dans le monde du cancer supplémentaire dû à la crise de 2008 parce que les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Aucun banquier responsable de cette crise n'a été condamné en justice pour ces 500 000 morts. C'est plus de 50 000 suicides en Europe à cause de la crise bancaire de 2008. Aucun banquier n'a été condamné pour ces meurtres de masse, pour ces incitations à mourir de masse. Et pourtant, ça concerne donc, si on calcule, au moins 550 000 personnes dans le monde qui sont mortes à cause des banquiers. Et on rappelle que la crise de 2008, les banques françaises ont participé. Donc si vous êtes au Crédit Agricole, à la Société Générale et à plein d'autres banques qui ont participé, que vous y êtes encore, c'est que vous les soutenez. Donc c'est le moment de choisir une banque un peu moins pire que les autres. Et il y en a des moins pires, voire des presque pas mal. Donc voilà, finalement, ce process, ça nous démontre que le système judiciaire ne marche pas contre le système financier et contre les banques.
Alors, normalement, dans un journal normal, ce que nous ne sommes pas, après cette information qui pourrait être l'actu, l'événement, le scoop, voire pour certains médias, nous devrions enchaîner avec une information internationale. Et pas du tout, nous allons faire du local et nous allons parler de Monsieur Barbara, si tu veux bien, Laurent.
Oui, alors c'est la suite des multiples affaires sur les prêtres pédophiles. Donc, Monsieur Philippe Barbarin, puisqu'il faut l'appeler comme ça, a donc, après l'avis d'un collège d'experts, indiqué ce matin, enfin c'est le discours officiel du diocèse, que 4 prêtres soupçonnés d'abus sexuels ont été relevés de leurs fonctions. Oh là là. Moi je dis bravo, bravo. Il nous rappelle aussi, ce diocèse, que toutes ces situations, donc ces 4 prêtres, en fait, les faits sont connus, puisque c'est des prêtres qui sont, pour l'instant, qui font l'objet d'enquêtes judiciaires. Conclusion, le diocèse réagit bien après les déclenchements de la justice, lorsque tout a été hyper médiatisé, donc c'est bien évidemment ultra ridicule. Alors bien sûr, c'est ultra symbolique, et tout le monde va pouvoir se dire, regardez, Barbarin condamne. Ouais, mais ils attendent que, un, les médias soient au courant, deux, que la justice fasse son travail, pour enfin relever de leur fonction ces prêtres soupçonnés d'abus sexuels, et d'abus sexuels sur mineurs, donc de pédophilie. Donc voilà, c'est juste triste que ce collège d'experts, alors il y a un magistrat, un psychiatre, une psychanalyse, un médecin, canoniste, quelqu'un qui fabrique des canons, non c'est pas vrai, une assistante sociale, un père et une mère de famille très à droite, voire mieux que ça, qui ont décidé tout ça après des mois et des mois, des mois, des mois, des années. On rappelle qu'il y a certaines affaires qui remontent à 25 ans. Il aura fallu 25 ans pour que Philippe Barbarin relève ses prêtres. C'est triste, tout ça. Voilà, une info purement locale et purement horrible.
Allez, on continue avec un petit peu de conspi.
Ouais, alors c'est une info qui est pas mal horrible aussi, hein, puisque ça va remonter un discours du 23 juin de Mahmoud Abbas, donc le président, plus élu du tout, hein, mais qui reste président à vie, je pense, de l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas, qui avait parlé d'un complot, qu'un rabbin israélien avait incité à empoisonner les puits palestiniens pour tuer toute la population palestinienne. Il a, il y a quelques jours, dit que... quelques jours, c'est samedi dernier, très exactement, dans un communiqué, qu'il était évident que ses propos étaient sans fondement et qu'il n'avait bien évidemment aucune intention d'offenser les Juifs, parce qu'il s'est révélé qu'effectivement, tout ce qu'il avait dit était une bêtise. Je le cite, la phrase, il a dit, donc c'était le 23 juin devant le Parlement européen, donc 24e minute de son discours. Je cite, il y a tout juste une semaine, un groupe de rabbins en Israël a annoncé dans une déclaration claire qu'ils demandaient à leur gouvernement d'empoisonner l'eau des Palestiniens. N'est-ce pas de l'incitation ? N'est-ce pas une incitation claire au meurtre de masse contre le peuple palestinien ? Enfin, forcément, ça fait peur, hein, quand on entend ça. Alors, cette déclaration qui figure pas d'ailleurs dans la version arabophone, hein, du discours qui avait été enlevée, trouve son origine en fait dans une intox qui est sortie sur internet le 16 juin, véhiculée par l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qu'on a connue un peu plus fiable dans ses informations, qui a été reprise le 19 juin par l'agence de presse turque Anadolu. L'agence de presse turque disait très exactement, je cite, le rabbin Shlomo Mlma, alors je prononce super mal mais je vais le dire comme ça, président du conseil des rabbins des implantations de Cisjordanie, a émis un avis dans lequel il autorise les colons juifs à empoisonner l'eau dans les villages palestiniens et les villes de Cisjordanie. Selon l'organisation anti-occupation Breaking the Silence, l'appel à empoisonner l'eau des Palestiniens a pour objectif de pousser les Palestiniens à quitter leur village de manière à ce que les colons s'emparent de leurs terres. Bon, c'était pas terrible, tout ça. Alors, ça a été démenti très rapidement par cette fameuse ONG Breaking the Silence, qui véhicule en général des infos justes et qui a pas voulu être associée à ce qui a été dit par cette agence de presse turque, qui a dit qu'on n'a rien dit de tout ça. Ils ont cherché le rabbin Shlomo Mlab, je sais pas comment ça se prononce, n'existe pas. Le conseil des rabbins des implantations de Cisjordanie n'existe pas. Alors, il y a des trucs qui ressemblent. Il y a le conseil des rabbins de Judée Samarie, vous savez que les juifs n'appellent pas ça la Cisjordanie puisqu'ils veulent appeler ça la Judée-Samarie, qui serait une province d'Israël. Donc les noms sont faux. Alors certes, il y a un rabbin qui a un nom traduit en hébreu qui ressemble un peu à ce nom-là, mais il a été interrogé, il a dit qu'il avait jamais dit ça, et puis qu'il voyait aucun rabbin dire une horreur pareille. Donc effectivement, ça semble être un faux, mais qui a été pas mal repris, c'est le problème de ces infos, de ces intox, puisque un journal des Émirats Arabes Unis, The Gulf News, a repris l'info, la chaîne du Hezbollah, vous savez, au Liban, El Manar a repris l'info, la chaîne de l'autorité palestinienne avait repris l'info, forcément. Sur Twitter aussi, un ancien membre du gouvernement de la bande de Gaza, membre du Hamas, avait balancé l'info aussi. En France, l'info a été reprise par CapJPO Europalestine, qui en général donne pas trop d'infos fausses non plus. Ils se sont fait piéger, ils ne sont pas allés vérifier. Alors une ou deux fois, ils ont fait des conneries sur le, notamment c'était arrivé sur la tentative soi-disant d'inonder la bande de Gaza, qui avait été une belle intox aussi, qui avait été reprise par CapJPO, si ma mémoire est bonne. Ouma.com, Alalbook et F2Branche, qui sont des sites pas fiables. Alors Ouma.com, c'est pas fiable du tout. Leur antisionisme les pousse à basculer assez régulièrement du côté de l'antisémitisme. Et donc voilà, ils avaient été repris sans vérifier cette fausse info. Donc voilà, c'est pour dire que non, on peut critiquer tout ce qu'on veut sur Israël. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ben, autant dire des choses justes plutôt que de raconter des choses mensongères qui ne font finalement que servir la cause des ennemis, c'est-à-dire des colons israéliens. Donc voilà, c'était pour dénoncer un petit peu cette info. Si vous l'avez vu circuler, c'était faux. Les rabbins juifs n'incitent pas à empoisonner l'eau des villages palestiniens.
Alors on parlait de Bolloré, nous allons commencer avec Vivendi, qui adore les jeux vidéo et comme dirait le canard enchaîné, sic et recic. Alors c'est une belle opération dans laquelle s'est lancé Vivendi, qui, je vous le rappelle, arrive à être à la fois avec le groupe Canal Plus sur la diffusion télé, les films, avec Universal Music, sur le divertissement, la musique et puis dans le numérique, donc des activités assez larges, ce qui est pas forcément le cas chez les autres, dans les autres multinationales. Après 8 mois et des mois, des semaines d'intenses attaques boursières, Vivendi a pris le contrôle de Gameloft, que vous connaissez peut-être, un éditeur de jeux vidéo très présent sur les mobiles. Alors tout avait commencé cet automne. En octobre, Vivendi acquiert une participation à plus de 10% de Gameloft. En février dernier, Vivendi dépose une offre qui n'était pas voulue et désirée par Gameloft, par le biais d'une OPA, et puis ce 20 juin dernier, le rachat est confirmé. Vivendi possède plus de 95% du capital de Gameloft. Alors pour rappeler un petit peu, Gameloft c'est aussi une affaire de famille à la base, avec des frangins, les Guillemots, qui ont aussi créé, je vous le rappelle, Ubisoft, là ça vous parle peut-être un peu plus pour beaucoup. Et puis Vivendi s'est donc emparé de cette chose. Vincent Bolloré y a tout de suite placé ses proches, ses amis, avec Sébastien Bolloré, président d'Omnium Bolloré, de Blue Solution USA, je vais pas tous vous les faire. On y retrouve par exemple Maxime Saada, le directeur de Canal+, et puis Stéphane Roussel, qui devient le patron à la place de Michel Guillemot. Alors du côté de la famille, eh ben évidemment il y avait une grosse campagne contre ce rachat, une campagne même on pourrait dire de dénigrement, vous voyez, plutôt de cet ordre-là. La fratrie parlait d'absence de stratégie, de vision aux antipodes au niveau de la gestion sociale, des pratiques de management. Donc beaucoup d'attaques. Et puis, ils ont tout perdu. Alors. On pourrait se dire, bah ouais, mais ils se sont fait manger, ils auraient pu résister. Alors non, ils n'avaient pas les finances pour résister. Alors ce qu'ils ont décidé de faire, les frères Guimaud, c'est de tout lâcher finalement à Vivendi. C'est ce qui s'est passé. 150 millions d'euros qu'ils souhaitent réinvestir dans Ubisoft, parce que ça, c'est la prochaine envie de Vivendi, c'est de manger aussi Ubisoft. Alors, ils essayent de se protéger, hein, c'est un peu l'idée. Bon, sauf que Ubisoft, c'est le troisième éditeur mondial de jeux vidéo, valorisé à plus de 3 milliards d'euros, donc c'est pas tout à fait la même affaire. On peut penser que les investisseurs vont pas regarder de la même manière les approches de Vivendi. En tout cas, Vivendi est très très agressif sur ce secteur, parce que ça lui permet de se rapprocher, et c'est un peu cette idée qu'on retrouve dans le message de Stéphane Roussel qui a écrit aux salariés de Gameloft. Alors, j'ai récupéré ce courrier, j'ai fait aucune investigation, je me suis simplement dit qu'il y avait bien une bonne personne salariée qui avait eu la bonne idée de la diffuser, enfin de diffuser ce courrier, ce message sur Internet. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été assez facile à trouver, je dois dire. Alors, avec ce courrier, on apprend un peu plus quand même d'une certaine stratégie. On y apprend que c'est bien parce que les deux activités sont complémentaires. Donc, Vivendi espère se servir de Gameloft pour renforcer ses activités, sa présence sur les mobiles à travers les jeux vidéo. On y apprend aussi que Vivendi aime Gameloft, puisque le courrier explique aux salariés, vous faites pleinement partie de la famille Vivendi. On sent une tentative quand même de vouloir calmer les esprits, parce qu'ils sont très très enflammés, ces esprits. Personne n'avait envie de voir Vivendi débarquer à Gameloft. Franchement, hein, ça va être du saccage, c'est ce que tout le monde se dit. Hein. Voilà un petit peu pour l'affaire Echo aussi de la semaine. Ce qu'on pourra après continuer un petit peu avec Bolloré, c'est avec Itélé. Parce qu'avec, si vous voulez, chez Gameloft, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le groupe Vivendi, on regarde ce qui se passe dans le groupe Canal+, dans les différentes filiales, et à Itélé, et ben depuis lundi 11h, c'est pratiquement le blackout.
Ouais, c'est la grève, ils rediffusent des reportages, je crois, assez vieux, et en continu, ils font que rediffuser, quoi.
Ah oui, c'est on continue. Vous avez un petit logo sur la gauche qui dit le document. Et puis, vous n'avez que ça. Et puis, vous avez toujours ce bandeau en bas, vous savez, sur les chaînes d'information en continu, à l'anglo-saxonne, à l'américaine, vais-je dire. Des infos, mais des infos qui sont très en retard. Alors, certains et certaines prétendent que ce sont les stagiaires de Itélé qui continuent à remplir les bandeaux. Je n'ai aucune confirmation de cette chose. Alors, Itélé, c'est Bolloré, encore une fois, qui fait le ménage.
Il est partout.
Oui, il est partout, c'est bien ça le problème. Et c'est bien ça que c'est pour ça que tout le monde se méfie. Et alors aujourd'hui, les salariés d'Itélé ont reconduit la grève pour un quatrième jour d'affilée. À 18h tout à l'heure, il y avait une nouvelle assemblée générale dont je ne sais pas ce qui a été décidé. Les salariés de la chaîne protestent contre la suppression de postes qui sont donc prévus à la rentrée prochaine. Sur 220 salariés, il y a 70 postes qui vont sauter, hein, donc c'est quand même pas mal. Il faut dire que, vous savez, il y a des rédactions aussi qui sont communes, hein, avec des 8 et les JT de Canal+. Et il est vrai que les JT de Canal+ et des 8 vont disparaître, hein, c'est les économies de monsieur Bolloré. Et puis la direction d'Itélé a annoncé que 52 contrats à durée déterminée d'usage ne seront pas reconduits, puisque ce sont des contrats qui se sont créés dans l'illégalité. Alors c'est juste que les syndicats et les salariés rappellent qu'ils n'ont pas demandé un maintien, hein, de ces contrats à durée déterminée d'usage qui étaient effectivement illégaux, mais une requalification, on s'est dit, c'est pas la même chose, hein, quand même. Alors les syndicats accusent Bolloré de faire un plan social déguisé, et puis ils se demandent, ces salariés, comment ils et elles vont faire à la rentrée, puisque globalement, certes, il y a une grille des programmes qui est réduite. Mais enfin, par exemple, sur Canal+, qui s'est mis en grève, hein, mercredi, je vous l'ai pas dit, mais il y a eu aussi une grève à mercredi à Canal+. Il y a moins de temps en clair, par exemple, sur Canal+. Mais ils vont faire quand même beaucoup de boulot, à beaucoup moins finalement, et c'est exactement ce qui va se passer sur iTélé, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de programmes à l'antenne réguliers, c'est-à-dire pas forcément de l'information qui est rediffusée, avec à côté de l'information en direct, mais en fait ils vont être moins nombreux, donc tout ça va rendre les choses un petit peu compliquées. Il y a aussi un flou du projet éditorial. Je vous rappelle qu'il y avait une motion de défiance contre la direction qui a été votée début juin. On leur parlait de publier reportage, hein, faut dire, donc à iTélé ils commençaient vraiment à s'inquiéter. Donc tout ça c'est pour faire évidemment des économies. Bon, il faut dire que depuis sa création en 99, cette chaîne d'information en continu perd de l'argent. Bon, là en tout cas il y a une belle grève, hein. C'est extrêmement rare, hein, quand même dans une chaîne privée de voir une telle grève, parce que c'est quand même très impressionnant pendant 4 jours de voir des vieux reportages, ou en tout cas des reportages qui peuvent dater du mois dernier. Bon, enfin maintenant que j'ai dit tout ça, on remarquera quand même que ce sont des programmes de pas très bonne qualité en général, en tout cas quand il y a du direct sur iTélé, il y a beaucoup de talk shows, c'est une chaîne d'information qui est tournée vers le football, globalement c'est souvent quand même pas très intéressant, et finalement ces programmes en boucle, on retrouve en fait des reportages qui pour certains, pour beaucoup, ont été faits à l'étranger, sont finalement plus intéressants que tous ces directs, et en particulier en ce moment au milieu de l'Euro où on nous parle que le football. Et puis dernière information, c'est Pure Média qui fait savoir que les parts d'audience n'ont pas baissé sur les deux premiers jours de grève sur iTélé, et ça commence à se mettre en place un petit peu cette baisse d'audience, et BFM TV évidemment qui récupère une partie de ses audiences. Alors une des explications, c'est qu'en fait tout le monde a pris, les téléspectateurs auraient eu du mal à comprendre tout de suite qu'il y avait une grève, puisque Monsieur Bolloré a interdit toute diffusion sur la chaîne ou sur les bandeaux de cette grève, donc le téléspectateur, la téléspectatrice n'est pas au courant quand elle regarde iTélé qu'en fait il y a une grève en cours, puisque personne n'a eu le droit d'annoncer ça, et ça a eu le don de pas mal énerver les journalistes d'iTélé. Et puis pour continuer avec les médias en grève, vous avez pu remarquer que Radio France était en grève mercredi, hein, pour protester contre la stratégie de l'entreprise, hein, vous connaissez tous et toutes ce petit jingle si vous écoutez l'une des radios de Radio France. Donc là c'est l'intersyndicale qui s'est mis en branle, CFDT, CFTC, CGT Sud et l'UNSA. Oui, il y a encore des endroits où on travaille avec la CFDT, hein, avec la CGT. Donc l'intersyndicale a appelé les salariés de Radio France à manifester leur attachement aux missions de service public et leur défiance vis-à-vis de la direction de Radio France et à la politique menée. Alors, beaucoup de choses, hein, qui sont critiquées. Il y a la suppression des postes à France Bleu. Il y a la baisse inquiétante, comme c'est écrit dans le communiqué, du nombre de concerts sur France Musique. La pollution des antennes par la publicité de plus en plus envahissante. Et puis cette création de chaînes d'information publique dans un contexte budgétaire actuel, je cite le communiqué. Voilà, donc pour les griefs à Radio France, ça arrive quand même fréquemment maintenant, vous l'aurez remarqué, qu'il y a des grèves dans le service public, parce que a priori les directions n'ont pas l'air d'aller dans le sens des salariés.
Alors on va parler un peu de nucléaire maintenant et quelques petites infos radioactives. La première concerne un site qui se trouve dans la Marne et qui nous rappelle que le nucléaire et la pollution radioactive, ce n'est pas seulement les centrales nucléaires et la production d'électricité, puisque ça peut concerner aussi d'anciennes mines d'uranium en France ou d'anciens sites militaires ou du commissariat à l'énergie atomique, comme c'est le cas sur cet ancien site militaire de Pont-Favergé-Moronvilliers, très exactement dans la Marne, près de Reims, où le COA, le commissariat à l'énergie atomique, y testait des détonateurs de bombes atomiques. Aujourd'hui, le site est fermé, les militaires sont partis et la zone est interdite d'accès, mais il reste 3 tonnes de déchets nucléaires, c'est-à-dire essentiellement de l'uranium et du plutonium, qui sont présents dans les sols, d'après ce que disent les autorités. Alors, le CEA estime qu'il n'y a aucun danger autour pour les populations, mais les riverains restent inquiets se mobilisent. C'est notamment emmené par le président de l'association de défense de l'environnement de Pont-Favergé, qui s'appelle René Petitprêtre, qui, avec d'autres riverains, réclame une décontamination complète du site, puisqu'effectivement, le CEA se barre, comme toute, finalement, entreprise ou service d'État qui se barre, eh ben, on ne peut pas laisser un lieu qu'on abandonne enfin, ou qu'on revend ultra pollué. Et donc, il leur demande de dépolluer. Donc, la mobilisation commence. Pour l'instant, l'État n'a pas l'air de vouloir répondre, mais il demande qu'il y ait au moins une analyse par une autorité indépendante pour voir que faire du site et comment le rendre non dangereux à la population. On va poursuivre avec Bure. Vous savez, Bure, c'est là où l'ANDRA, l'agence qui gère les déchets des centrales atomiques cette fois-ci, a prévu d'enterrer ces fameux déchets dont on ne sait que faire et qui doivent être enterrés pour 100 000 ans minimum. Hein, c'est l'ordre de grandeur du projet. Le projet s'appelle CIGEO. Il y a une nouvelle mobilisation sur une forêt que l'ANDRA va détruire pour construire ce fameux site de stockage profond des déchets radioactifs. Et ils sont mobilisés, il y a une sorte de ZAD qui est en train de se créer dans la forêt où les futurs ZADistes ou les nouveaux ZADistes ont construit des cabanes, ont récupéré des fils barbelés qui avaient été mis par l'ANDRA sur le côté de la forêt pour les mettre à l'intérieur. Enfin, pour bloquer l'accès à la forêt de l'ANDRA. Alors, ils ont reçu mardi matin quand même un ordre d'expulsion, hein, parce que bon, faut pas quand même pas rigoler. Le nucléaire, c'est pas pour les rigolos et pas pour les écolos non plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors les occupants ont renforcé un petit peu les barricades. Ils essayent de résister. Ils sont plutôt dans une situation précaire, mais ça nous rappelle quand même. Une chose, c'est que le projet de loi qui va donner une existence légale, à ce fameux laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires, ou ce centre industriel de gestion des déchets radioactifs, ça s'appelle CIGEO, eh ben, est pas encore officiellement décidé par l'État, puisqu'il doit être voté à l'Assemblée nationale le 11 juillet. Donc l'ANDRA, quand ils ont qu'ils ont commencé à prendre cette forêt, à installer leurs barbelés, eh ben, ils sont dans l'illégalité. Donc finalement, pour l'instant, les nouveaux zadistes, ils sont peut-être pas dans la légalité, mais l'ANDRA était non plus pas dans la légalité. Donc ça nous rappelle que le lobby nucléaire, qui est pas mal mis en difficulté avec les projets d'EPR qui prennent l'eau, qui coûtent des fortunes, le béton qui était pourri, l'acier qui est pas forcément bon... Eh ben, ils essayent d'aller très très vite sur ce dossier pour essayer de rassurer un petit peu tout ce qui tourne autour du lobby nucléaire. Et donc, ils vont plus vite que la loi. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là-bas. Donc voilà, c'était pour rappeler la création de ce nouveau lieu de résistance dans cette forêt qui est juste à côté de Bure, là où devrait être construit CIGEO. Et puis, en ce moment, il y a un salon au Bourget. Et c'est énorme. Ça s'appelle le World Nuclear Exhibition. En français, ça veut dire le salon du monde nucléaire. Ça, c'est pas la classe, un petit peu? Ah bah ouais. Donc, c'est un salon qui est organisé par la France et l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisque ce directeur de cette Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, est venu présenter un petit peu ce salon et, lors de l'ouverture, a fait un bon petit discours. Donc, c'est l'Agence internationale de l'énergie, j'ai rajouté atomique pour dire qu'ils sont quand même fans de l'atome, mais au départ, c'est pas forcément de l'atome, mais eux, ils sont tombés amoureux il y a quelques années. Donc il explique, il essaye de donner un côté positif au nucléaire. Il dit, vous inquiétez pas, les capacités nucléaires augmentent, puisqu'il y a 10,2 gigawatts de plus l'année dernière sur les 400 gigawatts dans le monde. Donc ça progresse, c'est très très bien. Mais il explique, c'est quand même un peu compliqué, puisqu'aujourd'hui, le plus gros problème du nucléaire, c'est les coûts. Et que l'électricité produite par le nucléaire coûte très cher. Et il rappelle, d'ailleurs dans son discours, que l'éolien a chuté d'un tiers, hein, l'éolien terrestre, que le solaire a plongé de 80% au niveau des coûts. Et donc pour le nucléaire, c'est pas gagné, puisqu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est 100 euros le mégawattheure sur les centrales en construction, ça coûte plus cher que l'éolien terrestre. Donc il a rappelé que c'était quand même pas gagné, que tout allait pour le mieux, mais qu'il y avait quand même des soucis. Et il a été soutenu avec amour, passion et une énorme foi dans le nucléaire par Monsieur Emmanuel Macron, vous savez, le ministre libéral, socialiste et de droite, parce que c'est pas incompatible tous ces mots, hein, je vous rappelle. Donc de l'économie française, puisqu'il a dit, je cite, Arrêter le nucléaire n'est pas un choix d'avenir. Ce n'est pas conforme à nos objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. Bon, c'est bizarre, mais tous les économistes et tous les ceux qui sont dans le monde libéral, dans les entreprises, tout ça, ils investissent pas du tout dans le nucléaire, hein, ils investissent dans les autres énergies. Comme quoi Macron, qui soi-disant est libéral, il est aussi un idéologue derrière tout ça, et c'est bien l'idéologie et sa foi, hein, parce que c'est pas fondé sur une action rationnelle, un raisonnement rationnel, le choix du nucléaire, c'est une foi, et donc lui, comme il croit en nucléaire, et nous constatons que c'est une aberration le nucléaire, avec une démonstration qui est, elle, rationnelle. Donc voilà, bon, c'était juste pour dire qu'il a dit beaucoup de bêtises. Alors il a dit un truc marrant sur le monde numérique, il a dit qu'il a reconnu que la filière nucléaire devait gagner en compétitivité et en attractivité, effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment, et il a dit ça se fera via le numérique et le big data. Alors on se dit, putain, comment le numérique et le big data vont sauver le nucléaire? Il dit, ben voilà, on peut anticiper les pannes, faire de la maintenance préventive, dans une centrale il peut y avoir un contrôle commande entièrement numérique. Ça, c'est ce qui balance. On rappelle que le contrôle commande entièrement numérique, ben, c'est dangereux. Hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les centrifugeuses en Iran. Ben, il suffit d'un petit virus pour péter le système. Donc, moi, je suis assez content que dans les centrales nucléaires, les systèmes de protection ne soient pas informatiques, mais électromécaniques, et dont une partie est entièrement mécanique, ce qui permet de pas être piratable et d'être un peu plus fiable que les systèmes électriques et numériques, qui sont beaucoup moins fiables que les systèmes électromécaniques. Enfin voilà, il y connaît pas grand chose, hein, en science et en nucléaire, ça se voit. Voilà, et puis il a rappelé qu'il fallait que l'État se dépêche pour lancer les deux EPR britanniques. Ah oui, avec le Brexit, ça fout un peu le bordel dans l'investissement que fait la France à travers EDF, et Emmanuel Macron est porteur de cet investissement, il l'a dit, dans ces deux EPR britanniques dont l'électricité sera plus chère que toutes les autres sources d'énergie électrique, a priori en Grande-Bretagne. Et puis pour terminer, ces petites infos radioactives. Taïwan, qui a fait le choix de sortir du nucléaire d'ici 2025, a dû répondre à quelques petites questions d'un député du Kuomintang. Donc le Kuomintang, je vous rappelle, c'est la droite, donc c'est l'opposition à ceux qui sont aujourd'hui à la tête de Taïwan, qui lui a dit, mais comment vous allez faire pour sortir du nucléaire? Donc il a bien expliqué qu'il fallait développer les énergies renouvelables, qu'ils allaient y arriver, hein, c'est le premier ministre Lin Chuan qui a répondu, et que la solution viendrait dans le développement des énergies renouvelables, comme je viens de le dire, mais aussi, surtout, dans la limitation des pics de consommation, et c'est un gros problème à Taïwan. En ce moment, il fait très chaud, et forcément, tout le monde met la clim, et ça fait péter les consommations électriques, puisque les clims fonctionnent à l'électricité. Alors là, la solution, elle est évidente, hein, il faut isoler, hein, pour arriver à ne pas que les appartes, les maisons deviennent des fournaises. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Il dit que c'est sur ça qu'il faut axer la recherche, et ils ont jusqu'à 2025 pour sortir du nucléaire. Aujourd'hui, c'est 16% de l'électricité qui est fabriquée par l'énergie nucléaire à Taïwan. Donc voilà, il a répondu de manière assez rationnelle et assez réaliste à son opposant de droite.
Alors, 1er juillet, ça y est. C'est là.
Les sacs plastiques disparaissent.
Oui, non, parce que oui, j'aurais pu vous dire qu'il y allait y avoir une revalorisation des indemnités chômage, mais c'est pas le cas. Par contre, effectivement, comme tu le dis, Laurent, c'est la fin des sacs plastiques à usage unique délivrés en caisse. Ça y est, c'est fini, c'est interdit.
Dans ça a mis du temps.
Hein, ça a mis du temps. Bah ouais, ça a pas arrêté d'être repoussé. Dans 6 mois, dernière étape, ce sont les sacs pour emballer les denrées alimentaires qui vont aussi disparaître. Il faudra des sacs biosourcés, comme j'ai pu le lire quelque part.
Non mais bon, vous aurez sûrement des sacs en papier
Après on a son petit filet, son petit cabas, enfin bon, on va pas revenir là-dessus.
On vous rappelle quand même que les sacs plastiques sont en partie responsables de ce fameux océan de plastique qui est dans les océans là, et de ce que fait qu'il y a des microbilles, des micro-bouts de plastique qui finissent dans le ventre des poissons, et dans ceux qui mangent du poisson, et ben ça finit chez vous.
Voilà, et quand il n'y a pas la mer juste à côté et qu'il n'y a pas tout de suite une rivière, ça finit dans vos champs, c'est pas à peu près pareil. Donc tout ça, je vous le rappelle, hein, c'est une réglementation qui s'inscrit dans la loi sur la transition énergétique défendue par notre ministre de l'Environnement, Madame Ségolène Royal, que je crois que tu apprécies beaucoup.
Oui.
Et alors il y a des profiteurs, hein, dans cette affaire, et les profiteurs dans cette affaire, c'est l'enseigne de supermarché Leclerc qui a lancé mercredi une campagne publicitaire dans la presse avec une vieille photographie de Madame Royale, une photographie datant de 1996. Elle a une jolie queue de cheval avec un chouchou. Et pourquoi ? Moi, c'est pour appuyer le fait que en 96, Leclerc a supprimé les sacs plastiques à usage unique avec. À l'époque, hein, on rappelle qu'à l'époque, ça leur permettait aussi de vous le faire payer le sac. C'était une autre économie. Et avec cette photo, il y a une petite phrase. Et oui, Madame Royale, c'était en 1996 et nous avions déjà supprimé nos sacs de caisse. Donc là, du coup, Leclerc nous explique ensuite dans un petit texte un petit peu plus long combien ils ont été forts pour la planète, globalement, je synthétise. Hein, mais enfin, vous voyez l'idée. Donc, là, dans la grande distribution, Leclerc serait donc tip-top. Top.
C'est ça.
De l'écologie, de la protection de l'environnement, puisqu'en 96 déjà, ils avaient les supermarchés et supprimé les sacs. Un moyen aussi d'attaquer Madame Royale, parce que c'est pas une grande amitié, il me semble, entre Édouard Leclerc et Madame Royale. Leclerc est attaqué par une organisation, c'est Greenpeace. Greenpeace reproche à Leclerc de manquer de transparence sur la vente de ses fruits et légumes. Et c'était le 22 juin dernier, des militants et des militantes sont allés devant le magasin de Bois d'Arcy, c'est dans les Yvelines, avec des banderoles, avec Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants, nouveau, découvrez notre jus multi-pesticides, voilà, pour les banderoles. Alors il faut savoir que un des militants de Greenpeace s'était suspendu à la façade, comme le fait beaucoup Greenpeace, hein, dans ses actions, on s'accroche, on s'attache, on se pendouille. Et ben là, il y a un employé du magasin qui a coupé la corde. Le gars est tombé, hein, ça va, ça s'est bien fini.
Ouais, bah, il a eu de la chance quand même.
Ouais, parce que ça aurait pu vraiment mal se terminer. Toujours est-il que donc, parallèlement à ça, Greenpeace a lancé une grande campagne contre Leclerc et a envoyé à la presse et aux médias un petit communiqué associé d'un petit objet. Alors nous, on n'est pas dans les petits papiers de Greenpeace, on n'a pas reçu le petit objet, on ne reçoit pas non plus les informations, nous allons les chercher par nous-mêmes. Nous avons donc pas eu la joie de recevoir cette petite bouteille en plastique à l'intérieur Greenpeace avait mélangé du jus de pomme, de pêche et fraises, des fruits que Greenpeace avait été achetés dans un magasin Leclerc de Toulouse. Alors Greenpeace a mixé, hein, les fruits, pris le jus et les a mis dans les bouteilles en plastique, un truc très manuel, très maison. Hein,
il voilà. Fallait le boire.
Et alors, Greenpeace a envoyé tout ça donc aux médias dans l'idée de dire, avec une tête de mort pour certains, des petits messages pour dire, voyez, à l'intérieur des pesticides, c'est très mauvais.
Donc, faut pas le boire.
Il faut pas le boire. Sauf que globalement, les médias ont reçu ça en fin de semaine, que certains ont juste peut-être et certaines ont juste sorti la petite bouteille de leur emballage, que d'autres ont laissé tout ça en attendant le lundi matin, et qu'entre temps, il s'est passé un truc très très rigolo. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Mais a priori, à certains médias, ça leur a pas plus doux tout coup, c'est que ça a fermenté et ça a explosé.
Ah, c'est génial.
Donc, ce qui fait qu'il y a de braves journalistes qui se sont retrouvés avec leur clavier d'ordinateur tout pourri de trucs sucrés.
C'est génial. Voilà. Bravo Greenpeace.
Ben, en fait, ils l'ont pas fait exprès. Alors, d'après ce que j'ai pu un peu lire, Greenpeace pense que c'est la fraise qui a amené trop de sucre et qui a fait trop fermenter. Alors, il y a d'autres médias, comme par exemple Science et Vie, qui se sont beaucoup amusés de l'affaire en rappelant c'est quoi la fermentation. Et ils ont, en même temps, Science et Vie raconte qu'eux, ils ont pas reçu non plus la petite bouteille. Ils sont a priori pas dans les papiers de Greenpeace, qui est quand même dommage pour une revue scientifique de ne pas être au courant de la propagande de Greenpeace, mais enfin bon. Mais eux se disent que de toute façon, ils n'iraient peut-être pas penser non plus que entre le vendredi, ils reçoivent le paquet et puis le lundi matin, ça fermente.
Autant.
Aussi ouais. Rapidement. Voilà, donc finalement dans les médias, ça n'a pas été forcément une bonne opération pour Greenpeace parce que ça a un peu noyé le propos qui était de dire...
Qu'ils avaient mesuré des taux de pesticides importants
dans les fruits et
les fruits et légumes chez Leclerc.
Et que surtout Leclerc refuse de s'engager dans de nouveaux processus, refuse la transparence et c'est aussi là-dessus que Greenpeace attaque. Voilà, donc des sacs plastiques à boum.
Ouais. Alors, on va rester dans l'environnement avec deux petites infos. La première, c'est sur le glyphosate. On attendait une interdiction ou une autorisation. Plutôt, hein, nous, on attendait l'interdiction, mais on pensait bien qu'il y allait avoir une autorisation. Ça manque de courage du côté de l'Europe. Ils se sont servis de l'excuse du Brexit et on repousse de 18 mois la décision. Donc, la Commission européenne n'a pas pris décision. Sauf que si, parce que quand on repousse de 18 mois, on autorise pendant 18 mois à nouveau le glyphosate. Vous savez, ce pesticide qui est très connu, hein, inventé par ou découvert par Monsanto avec son Roundup, qui est répandu de partout, qui bousille un petit peu tout et qui est un produit très toxique. Ben voilà, la Commission européenne n'a pas eu de courage, il n'y a pas eu de majorité non plus, hein. La France et Malte, alors la France a voté contre, ce qui nous fait plaisir, ce qui s'est pas toujours gagné là-dessus, vu les pressions des lobbies, des chimistes, et 7 autres pays européens sont abstenus, du coup il n'y a pas eu de vote, et pendant 18 mois, le pesticide est à nouveau autorisé. On espère que dans 18 mois, ils prendront une décision un peu plus courageuse, c'est-à-dire qu'ils l'interdiront. À voir l'année prochaine, enfin un peu plus. Et puis, on va juste dire un mot sur Notre-Dame-des-Landes, puisque vous avez tous entendu le résultat du référendum, qui est donc défavorable à la résistance et qui est favorable au déplacement, enfin au déménagement de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Alors bien évidemment, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont dit qu'ils résisteraient, les écolos aussi, enfin pas mal de gens. Bon, après, voilà, maintenant ils sont coincés, hein, parce qu'ils vont être accusés de résister à la démocratie, ce qui est le cas, effectivement, si on n'analyse pas plus loin que ça, ils résistent à une décision démocratique des gens de déménager. Sauf que quand on regarde le référendum, c'est plus compliqué que ça, puisque si le référendum avait été fait sur les gens directement concernés, c'est-à-dire autour de Notre-Dame-des-Landes, ben ils auraient dit non. S'ils étaient sur Nantes, bon, c'est moitié-moitié. Et puis plus on s'éloigne, et notamment plus on se rapproche de l'ancien aéroport, plus les gens étaient pour le déménagement. Et c'est l'habituel « pas dans mon jardin », la « not in my backyard » en anglais. C'est, bah oui, ceux qui sont près de l'aéroport, ils veulent qu'ils déménagent pour aller faire chier les autres, etc., etc. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens, ce référendum. Mais ça nous rappelait aussi que, finalement, les gens sont soi-disant intéressés à l'écologie et à l'environnement, mais quand il faut prendre des décisions, eh ben, les gens les prennent pas et assument jamais, hein, et on sait que majoritairement la population, elle est pas écolo. Il fallait arrêter de croire là-dessus. On est une minorité à défendre l'environnement, à défendre l'écologie. Le plus simple, c'est de regarder le nombre de personnes qui sont encore chez EDF, qui sont contre le nucléaire. Et même chez les militants soi-disant anti-nucléaires, ils restent chez EDF. Ils vont pas chez Enercop comme Radio Canu ou chez d'autres qui fabriquent de l'électricité sans nucléaire. Donc voilà, c'est un exemple simple. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein qui sont contre le gaz de mais qui ont une voiture et qui roulent avec du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, d'Iran maintenant, ou de je ne sais où, et qui bousille toute la planète. Ben voilà, c'est toujours un petit peu facile d'avoir un discours écolo, c'est très difficile de le mettre en œuvre, et finalement, ce référendum nous a montré que même si ça n'incitait pas les gens à avoir un vrai combat écolo, un vrai engagement écolo, ben majoritairement, la population elle reste pas forcément contre un aéroport. Alors après, je vous rappelle, c'est l'échelle aussi du référendum qui a joué, qui a été calculé intelligemment. Ils sont pas cons non plus. Faut pas prendre les socialistes pour des imbéciles. Donc voilà, ben la lutte continue, même s'ils ont pas de légitimité démocratique si on suit le référendum des socialistes. Mais ça n'empêche pas de résister. De toute façon, hein, on rappelle, les résistants, c'est toujours des minorités, hein, qui les font. Donc voilà, pour cette petite info, on va parler photographie.
Oui, nous avions envie de vous parler de cette exposition photo qui se tient à la bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon, qu'on appelle aussi par chez nous la Condition des Soies, c'est pas très loin de Radio Canu. Une exposition photo de Pierre Suchet, Nord, Sud, Est, Ouest, des photos en noir et blanc. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je suis un peu frustrée parce que à la bibliothèque du 1er, c'est toujours trop court, ces expositions.
Oui, c'est
l'espace est petit, mais c'est une petite bibliothèque de quartier. C'est aussi intéressant, si vous habitez le quartier, de penser à vous déplacer, hein, dans tous ces lieux culturels qui sont juste à côté de chez nous. C'est vrai que quand on habite le quartier, on peut se rendre compte que c'est pas forcément là où on se déplace le plus. Au musée, à l'amphithéâtre de l'Opéra, dans les bibliothèques, dans des lieux culturels, il y en a quand même beaucoup sur le quartier. Et pourtant, parfois, on reste loin de ces lieux. Et alors là, c'est en accès gratuit, c'est libre, donc il ne faut pas le gêner.
Il faut monter au premier étage, hein, à l'entrée de la bibliothèque du premier arrondissement de la Condition des Soies, rue Hippolyte...
Rue Hippolyte Flandrin, c'est ça que tu allais dire ?
Non, je ne suis pas sûr. Hein.
Non, ce n'est pas ça non plus. Alors tu nous embrouilles. Voilà. Alors, on se fiche de l'adresse, vous êtes des grands, vous irez vous trouver ça dans un truc papier ou sur internet. Alors, déjà nous sommes sensibles à la photo noir et blanc, c'est vrai, dans cette émission d'une manière générale. Avant de voir cette exposition, nous avions été faire un petit tour sur le site internet de Pierre Suchet, ce qui nous avait permis de nous rendre compte de l'importance aussi de son travail. Et donc j'avais hâte, moi, de les voir en vrai, accroché, comme on dit. Dans cette exposition, Pierre Suchet, qui nous a raconté, avait dû faire des choix, hein, puisque justement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je pense que pour un photographe, comme pour un peintre ou un plasticien, c'est toujours difficile de faire des choix. Pierre Suchet nous propose plusieurs séries. Une série sur New York, le couteau et le labyrinthe. Une série sur le Togo dans les rues de Lomé, une Togo Terre Promise. Une très belle série sur Stalker Repérage. Alors cette série est une quête poétique à Tallinn en Estonie. Ces photos repartent à la recherche des lieux de tournage du film de Tarkovsky que vous avez peut-être vu. Et puis il y a une série que moi j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Inversion de la courbe. C'est une série de photos qui ont été prises sur les pentes de la Croix-Rousse et ces photos nous montrent les rampes des escaliers. Vous savez, il y en a de partout sur
ouais, ces petites
portes.
Rampes souvent métalliques, hein, d'ailleurs ouais. Essentiellement métalliques, qui sont plantées dans les pierres des murs qu'il y a autour des escaliers, des pentes de la Croix-Rousse, des traboules et des choses comme ça. Alors, les autres parties de l'exposition, c'est plus un travail presque documentaire, un classique de la photo noir et blanc de reportage, hein, notamment celle sur Lomé, que j'aime beaucoup.
Même si jamais Pierre Suchet va pas forcément se lier à l'idée du reportage, mais en tout cas, on y trouve une sensibilité aussi politique à travers ces photos.
Tout à fait, elles sont d'ailleurs très très bien. Celles de New York, elles sont assez classiques pour le coup. Et puis, effectivement, cette série d'expositions sur les rampes, c'est une exposition qui est plus artistique dans le sens art contemporain, puisque en fait ce qui est intéressant dans cette expo, il y a les photos et surtout le petit bout de papier qui est posé juste en dessous sur la petite rambarde là,
le petit carton,
et dans lequel il y a un commentaire sur cette montée ou cette descente, puisque les rampes, ça monte ou ça descend, avec des commentaires poétiques, du coup.
Et alors, ce qui est bien, c'est de se reculer, évidemment, puisque cette série étant sur un seul mur, sur un coude, d'un seul coup, on peut prendre l'ampleur de vraiment la courbe, ça monte et ça descend, ces rampes montent et descendent, et donc c'est un espèce de parallèle avec les indicateurs de la finance. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette.
C'est une très belle idée. Voilà, de la photo qu'on peut trouver par exemple à Arles.
Oui, ce qui est plutôt un compliment, moi, je trouve.
Exactement.
Ça.
C'est-à-dire un mélange d'idées politiques et aussi d'art contemporain, hein, puisqu'il y a une approche, moi, je trouve assez art contemporain. Alors que les photos sur Lomé, on les aurait plutôt retrouvées à Perpignan dans le festival de photoreportage, par exemple. Donc ça montre un peu deux côtés de son travail à ce photographe qui fait de l'argentique. Donc vous savez, le truc analogique, là, des pellicules avec des grains.
Oui, il nous a raconté qu'il avait eu une période numérique, il était revenu à l'argentique finalement.
Ouais. Et donc il travaille au Leica pour les photos rectangulaires et je ne sais plus quel appareil il utilise, un 6-6 là pour faire les photos en carré, celles qui sont à Tallinn, donc dans la capitale de l'Estonie.
Oui, parce que alors on aurait pu aussi vous raconter, sans dévoiler sa vie, que Pierre habite le quartier de la radio et qu'il a aussi un rapport très intéressant à ce qui l'entoure, à son territoire. Il va faire ses tirages dans le quartier. C'est aussi une logique de travail que moi je trouve très
intéressante. Oui, ouais,
mais c'est très intéressant parce qu'il essaye aussi de lier à la fois l'esthétique de ses photos, son propos, qu'il soit poétique ou politique, c'est souvent les deux. Derrière aussi la suite, hein, c'est-à-dire comment on les tire, où est-ce qu'on va les diffuser et tout ça. Moi je trouve que c'est, ça donne aussi un sens à tout son travail. C'est très intéressant. On a eu le plaisir de pouvoir discuter avec lui quand on a été visiter cette exposition. Voilà, donc on vous invite vraiment à aller voir à la bibliothèque du premier cette exposition de Pierre Suchet, Nord, Sud, Est, Ouest. C'est jusqu'au 13 juillet. Je voulais chercher les horaires de la bibliothèque du premier. Vous êtes grand, tout ça.
Il y a un samedi, il est toute la journée là-bas, je crois.
C'est le 9 juillet, si je me souviens bien, à partir de 15h, il me semble.
Ouais, toute la journée. Ouais.
Voilà, il me semble que c'est ça. Renseignez-vous à la bibliothèque du premier. Vous rentrez chez vous, vous montez les pentes à pied, arrêtez-vous et faites un petit tour au premier étage de la Condition des Soies.
Exactement. La vraie photo argentique avec un peu de grain.
Ah, ça va être bien.
Ça manque un peu de grain parce que les tirages sont pas tous.
Ça coûte très très cher de faire des tirages, hein, ça il faut le savoir. Il y a aussi des grands formats. Oui. Ça c'est aussi intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même aussi un engagement financier.
Mais il y a un truc génial, hein, dans ces photos, pour ceux qui apprécient la vraie photo, c'est que il n'y a pas de netteté suraccentuée sous Photoshop, même s'il y en a peut-être, mais en tout cas les discrètes s'il y en a. C'est agréable d'avoir des photos un peu naturelles aussi sur du beau noir et blanc. On est un petit peu en avance, donc je me suis dit.
je t'en prie.
Je vais parler d'un livre.
Eh ben oui, il me semblait bien que je t'ai vu le sortir.
Je l'avais amené, donc au cas où on ait du temps. Donc le livre s'appelle La petite histoire des grandes impostures scientifiques. C'est un livre sur les éditions aux éditions du Chêne, écrit par Gilles Harpoutian. Je crois qu'il écrit dans des journaux scientifiques, donc des magazines sur les neurosciences notamment, et sur les sciences en général. Donc il a écrit, alors c'est un livre très accessible, donc on n'a pas besoin d'avoir fait un bac S ou d'être...
Tu veux dire que moi je peux le lire,
donc
c'est
toi,
ça,
tu peux le lire, ou d'être docteur en sciences pour comprendre le livre. Et on a les impostures scientifiques. Alors on a peut-être, alors je ne sais pas si c'est la plus connue, pour moi c'est la plus connue, celle de Gregor Mendel. Donc c'est ce prêtre qui découvre les lois de la génétique avec la transmission par les allèles récessifs ou dominants. Il fait ça avec des petits pois, les petits pois. Enfin bon, il y a tout un truc. Si vous avez fait, été comme moi dans un bac où on fait de la biologie, on apprend ces lois de la génétique qu'il a trouvé lui en trichant. Parce qu'en fait, les expériences qu'il a fait, et on le sait depuis, ça donnait pas les bons résultats. Mais comme il pensait vraiment que ces lois étaient justes, eh ben il a triché sur les résultats et il s'est avéré que c'est une triche positive puisque c'était vrai et que ces lois de la génétique ont entraîné des tonnes de choses derrière. Alors l'intérêt de ce livre, c'est de montrer les différents types d'impostures scientifiques à travers quelques cas comme ça, symboliques, des cas positifs comme Mendel ou des cas où des gens ont vraiment triché, inventé n'importe quoi. Donc ça va à peu près toutes les époques. On a un truc marrant qui s'appelle le Turc mécanique. Hein, c'était un automate qui jouait aux échecs il y a quelques siècles de ça. Et en fait, il y avait un mec planqué à l'intérieur qui jouait à la place parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc voilà, des petites impostures sympas. Il y a une imposture qui est assez peu connue, sauf des scientifiques, celle d'Einstein. Hein, puisque Einstein n'a pas inventé le E égale MC2 hein, qu'on associe souvent à Einstein, c'est Henri Poincaré, un mathématicien français très célèbre. Mais du coup, le livre raconte que Einstein effectivement il s'est trompé, il s'est pas trompé, il a pas inventé le truc, mais il a récupéré et il avait un esprit de synthèse très développé. C'est un très grand scientifique, Einstein. Il remet pas ça en cause, le gars. Mais il rappelle que, voilà, la relativité, elle est basée sur une équation inventée, découverte par un autre. Et que Einstein n'a jamais dit que ça venait d'Henri Poincaré, alors que ça venait vraiment d'Henri Poincaré. Donc Einstein aussi s'est arrangé avec la réalité pour apparaître comme un grand scientifique, qu'il était quand même. Mais, voilà, il a pas été honnête tout le temps. Bon, il s'est trompé sur d'autres choses, Einstein. Il s'est trompé sur la physique quantique. Bon, bref. Et voilà, on a comme ça dans ce livre, Louis Pasteur, grand tricheur. Alors ça, en France, c'est pas connu du tout, parce que Pasteur, c'est un héros national. Pasteur, putain, il a découvert le vaccin de la rage, là, vous savez. Bon, en fait, pas du tout. Il a piqué le truc à d'autres. Alors là, c'est un vrai voleur, Pasteur. Mais c'est un vrai aussi, il a su faire, il a su le développer, il avait d'autres capacités. Mais enfin, il a volé le travail d'autres gens. Donc ça nous rappelle un peu tout ça. Et puis, il y a des choses intéressantes comme Lysenko, qui instrumentalise le soviétisme et la science à travers ce soviétisme, puisqu'il va inventer ce qu'il appelle la biologie prolétarienne, qui la biologie finalement s'adapte au discours de l'Union soviétique de l'époque, avec des trucs qui sont totalement faux. Donc voilà, on a pas mal de choses qui datent un peu de toutes les époques, comme ça il y a une quinzaine de cas qui sont étudiés, alors on nous explique ce que ça veut dire, d'abord scientifiquement, ou c'est faux ou c'est juste, et puis on a voilà des choses sur qu'on connaît, quand on est un peu intéressé à la science, il y a des choses qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on connaît pas, par exemple le rayon N de René Blondelot, qui date du début du XXe siècle, a été très connu en France à cette époque-là, puis qui a disparu. C'est une bonne imposture scientifique. Voilà, on a des choses très récentes. Hein. Alors, qui est plus connu, c'est le Hang Woo-suk, qui est le héros du clonage coréen, mais qu'on sait qu'il avait cloné un être humain. Hein. Bon, bah, c'était du pipeau, on l'a tous su. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est un livre qui est très, très accessible. Si vous voulez connaître un petit peu la science, c'est intéressant de savoir ce que c'est que la science, le rationalisme. Parce que la science, contrairement à la religion, contrairement à toutes les croyances, c'est attaquable, c'est critiquable et ça peut être remis en cause. La base de la science, c'est que tout peut être remis en cause à tout moment si vous apportez la preuve du contraire. Hein, et ça, c'est fondamental dans la science. Donc c'est fondamental qu'il y ait des livres comme ça qui expliquent qu'il y a eu des impostures scientifiques, mais qu'on les démontre. Et du coup, eh ben, l'imposture, elle tombe. Et aujourd'hui, alors plus, après, il y a le grand public, ce qu'il connaît, ce que savent les scientifiques. Il y a des fois une différence, hein, notamment le cas de Le Pasteur ou d'Einstein, où leurs impostures sont assez peu connues. Mais voilà, ça nous rappelle tout ça. Et voilà, c'est très accessible, c'est un très, très bon livre, ces grandes impostures, la petite histoire des grandes impostures scientifiques. Bon, certes, il y a d'autres livres qui font référence. Moi, je, d'ailleurs, dans sa bibliographie, il recite le petit chef-d'œuvre qu'avait écrit il y a longtemps, je pense, c'est dans la fin des années 80, Michel de Pracontal. Ça s'appelle L'imposture scientifique en 10 leçons. C'est sorti en livre de poche et ça a été réédité en 2005. Donc, ça est toujours disponible au Point Seuil. Voilà, où il y a un grand moment là sur, là, pour le coup, beaucoup plus complet, beaucoup plus scientifique sur l'imposture scientifique avec des théories complètement farfelues qui sont bien drôles. Mais voilà, il y a plein de choses dans ce livre que je vous conseille. C'est une approche sympathique, drôle, hein, parce qu'on apprend des trucs, c'était complètement débile, des mecs ont inventé des faux fossiles, enfin des trucs pas mal comme ça, sur les falsifications scientifiques. Il n'y a pas tout, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit livre sympathique.
Eh ben, on va vous laisser pour ce jeudi soir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine parce que nous ne sommes toujours pas en vacances.
Oui, on estime que comme le capitalisme va continuer de faire de l'information tout l'été, nous on va essayer de résister un petit peu avant de partir en vacances, qu'on aura droit quand même à une pause. On ne sera pas remplacé, bien évidemment, parce qu'à Canu, il n'y a pas de remplacement des Canu Info. On va essayer de tenir le plus longtemps possible pour continuer de donner d'autres informations. Et la prochaine mobilisation sur la loi travail, il y en a encore au moins une mardi prochain. Ouais. Je ne sais pas où c'est, quand c'est.
Non, on n'a rien noté, on mais enfin, c'est pas. Pareil,
Les infos ne sont pas tombées sur Lyon pour
si,
l'instant.
Si, il me semblait qu'on avait déjà les noms, les infos. Non.
Je n'ai pas fait attention.
Voilà, mais bon, c'est pareil.
Chercher.
Chercher. Voilà. Ce sera le mot du jour. Ne vous laissez pas faire. Chercher. Et si vous avez envie de faire du sabotage au travail, contactez Greenpeace donc pour la fermentation du jus.
Voilà. Et d'ici quelques secondes, va commencer la petite cuillère.
À bientôt. Ciao, ciao.
Bye, bye.